Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, l'armée américaine a procédé sur ordre du président Donald Trump à des frappes sur la base aérienne syrienne de Sherat, située près de Homs. Ce week-end, un porte-avions américain a été guidé vers une zone proche des côtes de la Corée. Il est à la Maison-Blanche, Donald Trump, depuis deux mois et demi de rebondissements, surprises et autres retournements. Donald Trump tient au moins ses promesses médiatiques. Et pour tenter un bilan d'étape, nous sommes en compagnie d'Annick Cizel. Bonjour, vous êtes enseignante-chercheuse à l'Université Sorbonne-Nouvelle Paris 3, spécialiste de politique étrangère américaine, et Stephen Ekovitch. Vous êtes professeur à l'Université américaine de Paris. Bonjour à tous les deux. Cela fait donc deux mois et demi que Donald Trump est à la Maison Blanche. Quel bilan tirer de cette période, Annick Cizel?
C'est un bilan un petit peu à l'image de Donald Trump, c'est-à-dire très surprenant. Très surprenant, mais pas dans le sens où il s'y attendait lui-même. Il nous avait annoncé qu'il allait tout réformer pendant moins de 100 jours, en fait, qu'il allait réformer l'Obamacare dès son premier jour à la Maison-Blanche. Et puis, on a vu le fiasco au Congrès. On a vu un Paul Ryan, chef de la Chambre des représentants, prévenir son président qu'il n'avait pas la majorité requise pour réformer cette loi d'emblée. On a vu le président passer outre, demander quand même que ses ordres soient respectés, et le fiasco à la sortie d'un projet de loi qui doit être donc retiré et vraisemblablement représenté dans les semaines qui viennent.
Stephen Ekovitch,
oui,
votre avis?
Dans l'ensemble, on peut dire que c'est sur quasiment toute la ligne, c'est un échec. Donald Trump, ses promesses allaient dans tous les sens pendant la campagne électorale. C'est très difficile de cerner une ligne directrice et continue donner des promesses, des faits d'annonce, des dérapages verbaux, des dérives fracassantes, des tweets fracassantes. Donc, il faut pas, je crois, confondre ce qui annonce à haute voix Donald Trump avec la politique américaine, que ce soit la politique intérieure ou surtout la politique extérieure.
On nous avait promis une fin du monde. Je vais essayer de défendre Donald Trump. C'est un travail difficile, mais on nous avait promis une fin du monde lorsqu'il a été élu. Et au moment où je vous parle, 7h44 sur France Culture, il n'y a toujours pas de fin du monde, Annick Cizel.
Pour autant, il y a beaucoup de bruit et de fureur qui est en train de se faire entendre un petit peu partout dans le monde. C'est vrai qu'on a assisté finalement à une vacance du pouvoir bien au-delà de la transition entre la présidence de Barack Obama et celle de Donald Trump, bien au-delà de l'habitude qu'on a à chaque changement de président tous les 4 ans, enfin, s'il y a changement, sauf renouvellement de mandat. Pourtant, Barack Obama avait préparé la transition, il y avait un accord entre les deux présidents sortant et entrant qu'une certaine continuité aurait lieu en matière de politique étrangère, qu'un certain nombre de membres du corps diplomatique resteraient en place justement en cas de crise internationale majeure. Et pour autant, on voit un vide complet de pouvoir, sans doute dû aussi aux annonces de Donald Trump, qui nous avait annoncé être un président isolationniste, qui avait parlé de repli, qui avait parlé qu'il se désengagerait du Moyen-Orient, à commencer par le Moyen-Orient et du reste du monde. Et ceci a clairement proposé une vision du monde de partage en sphère d'influence, ce qui a donné un feu vert aux Russes, aux Nord-Coréens, aux Iraniens, je fais le tour du monde rapidement, qu'ils pouvaient s'installer bien tranquillement dans les zones qu'ils revendiquent eux, et que le président américain ne bougerait pas, sauf qu'il vient de bouger, effectivement, mais nous sommes déjà au mois d'avril.
On va revenir sur la politique étrangère, mais en matière de politique intérieure, Stephen Ekovitch, il y a des choses que Donald Trump a tenté de faire qu'il n'a pas réussi à faire, par exemple la réforme de l'Obamacare. Il y a des choses, finalement, auxquelles il n'a pas touché, on redoutait un certain nombre de choses.
L'immigration, par exemple, où la justice est intervenue pour dire non, que ces démarches étaient contre la Constitution, par exemple.
Donc là-dessus, il n'a pas réussi à faire quoi que ce soit. Il a autorisé la construction d'un pipeline qui va toucher des zones protégées, mais en dehors de cette décision qui a été entérinée, je ne vois pas, en fait, véritablement d'autres décisions qui aient porté leurs fruits. Je me trompe?
Non, absolument. Même pour ce mur qu'il veut construire, il y aura beaucoup de Texans qui vont, il y aura enlevé des boucliers parce qu'il faut exproprier beaucoup de propriétaires de leurs terres. Et déjà, il y a un mouvement en vue pour résister sur le plan juridique, le tracé de ces murs, par exemple.
Donc, le mur, pour l'instant, on n'en voit pas la trace, sachant qu'il faut rappeler à nos amis auditeurs que ce mur, pour une partie de celui-ci, il existe déjà.
Et dans le temps, il y avait aussi une résistance des propriétaires. Hein. Il y avait beaucoup de cas en justice. Toutes les propriétaires ont perdu leur poursuite en justice. Mais néanmoins, et les Texans ont voté plutôt pour Donald Trump, mais là, ils se rendent compte qu'ils vont être, eux selon qui, tout le long de la frontière mexicaine, vont être expropriés pour la construction
du mur. Expropriés si le mur est construit, puisque en matière de financement, il demandait un financement au Mexique, il ne l'a pas obtenu. Il a réussi, évidemment, à se brouiller avec le Mexique, Annick Cizal, mais pour l'instant, rien d'autre à l'horizon dans ce domaine-là.
Rien à l'horizon et le financement n'arrive pas et n'arrivera pas. Le Mexique, clairement, a d'autres partenaires commerciaux et si les États-Unis commencent à mettre en place des mesures de revanche, de vengeance contre un Mexique qui, évidemment, refuse de payer pour ce mur, le Mexique a clairement dit « nous, on négociera avec la Chine et on a d'autres partenaires, l'Union européenne notamment, et le Canada, bien sûr. » Et d'autre part, le Congrès républicain n'est pas d'accord non plus de mettre autant d'argent dans un mur alors que d'autres priorités de réformes, et notamment de réformes fiscales qui baisseraient a priori les rentrées d'argent, tout ceci n'est pas compatible sur un plan budgétaire.
Donc il n'y a pas eu véritablement de modification à cet égard. Ensuite, on nous a dit qu'il allait probablement remercier la présidente de la réserve fédérale, Janet Yellen. Elle est toujours à son poste et manifestement la politique économique américaine n'a absolument pas été modifiée depuis que Donald Trump est au pouvoir.
La Fed est indépendante. C'est l'idée toujours que
voilà. Apparemment, il poursuivait une autre idée voilà. Lorsqu'il a été élu.
Voilà. Non, Donald Trump se bute contre les réalités, les institutions et la Constitution. Donc, on peut se demander dans quelle mesure lui maîtrise toutes ces réalités dans sa tête à lui, hein, parce que il est arrivé à Washington sans un carnet d'adresses. Toutes les leaders des deux partis arrivent avec une transition déjà quasiment en place, mais Donald Trump n'avait quasiment rien. Il était obligé d'improviser. Et même aujourd'hui, il y a beaucoup de postes qui ne sont pas remplis au plus haut niveau de l'État.
Lesquels?
Dans le département d'État, ministère des Affaires étrangères, notamment, par exemple, et dans d'autres ministères.
Donc, tout pas pourvu parce que peu de gens veulent travailler pour lui ou pas pourvu parce que il n'a pas trouvé les profils qui le satisfont.
Les deux. Encore une fois, il n'est pas arrivé à Washington avec un carnet d'adresses construit depuis des années et des années, comme avait, par exemple, Hillary Clinton. Hein.
Et Stephen Ekovic, je vais continuer mon travail de défense de Donald Trump. Parfois, les politiques font des annonces en sachant très bien qu'elles sont, impossibles dans les faits à réaliser. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs parfois des promesses électorales. Et on a eu en France, par exemple, le discours de Grenoble de Nicolas Sarkozy qui devait permettre de déchoir de leur nationalité un certain nombre d'individus. Cette idée a été reprise ensuite par François Hollande. Et je crois que les deux savaient au fond d'eux-mêmes que constitutionnellement, cette idée ne tiendrait pas. Est-ce que finalement, on ne peut pas soupçonner Donald Trump d'avoir très bien su que ce mur était une idée, fantaisie sur la totalité du trajet, puisqu'il existe en partie, que finalement, Janet Yellen resterait à son poste. Bref, que tout ceci était du domaine de la promesse électorale. Annick Cizal, votre avis à ce sujet?
Je crois qu'il y a deux choses. Il y a les promesses électorales, effectivement, qu'on fait, que tout candidat, quel que soit le parti auquel on peut penser, fait pour rassurer sa base électorale, s'assurer un soutien majoritaire et, effectivement, être élu. Mais dans un second temps, on a un cas particulier chez Donald Trump. On n'a pas simplement quelqu'un qui n'a pas de carnet d'adresse, on a quelqu'un qui a fait entrer à la Maison-Blanche et dans les différents départements, dans les différents ministères de son gouvernement, des zèles politiques du Parti républicain, non seulement différentes, mais divergentes. On a différents cercles de pouvoir, à la fois issus du Parti républicain, j'allais dire de l'establishment républicain, issus de sa propre famille, avec des conseillers très très proches, sa fille Ivanka, son gendre Jared Kushner, avec Stephen Bannon, avec une aile extrême droite de cette droite alternative qui est peut-être sur le départ effectivement de la Maison Blanche si on en croit certaines rumeurs actuellement, mais donc des cercles de pouvoir qui ne se parlent pas, qui se parlent mal et qui ont déjà débouché vers des départs anticipés. Évidemment, je pense au général Flynn qui lâche son poste de conseiller national à la sécurité au bout d'un mois en place pour des questions de scandale vis-à-vis de la Russie, etc. Mais aussi parce que les êtres humains ne s'entendent pas. On a des néoconservateurs, on a des isolationnistes, on a des républicains plutôt faucons, plutôt intervenants. On a tout et son contraire. Et il faudrait un président leader, un véritable exercice de leadership pour pouvoir réconcilier toutes ces voix discordantes.
Alors, il faut malgré tout expliciter ce que vous venez de dire. L'une des informations qui a été dévoilée vendredi, elle a été quelque peu atténuée par l'annonce donc du raid américain sur la Syrie. C'est le fait que Steve Bannon, qui est donc le fondateur de Breitbart, non pas le fondateur, pardon, mais le continuateur de ce site d'extrême droite Breitbart, a été rétrogradé. Il faisait partie du Conseil de défense qui avait été jugé tout à fait saugrenu s'agissant d'un homme qui n'avait pas de compétences particulières en matière de défense nationale. Il a été rétrogradé et cette rétrogradation a donné lieu à de nombreux commentaires. S'agit-il en quelque sorte d'une remise à jour du comité de défense puisque Steve Bannon avait accompli sa tâche, c'est ce qu'il a dit, mais on a également pensé à une disgrâce. Votre opinion à ce sujet, Annick Sizel?
Clairement, c'est une disgrâce. Clairement, j'allais dire les prises de bec, parce qu'on en est à ce niveau-là, entre Steve Bannon et Jared Kushner devenaient...
Le gendre,
le mari d'Ivanka, devenaient vraiment trop audibles en dehors de la Maison Blanche. Et il faut savoir également que dans la composition... Première version du président Trump, du Conseil national de sécurité, donc qui regroupe le ministre de la Défense, le département d'État, qui traditionnellement, depuis la loi de 1947 et la nouvelle loi de 1949 sur le ministère de la Défense, faisait siéger de droit le chef d'état-major des armées, l'ambassadrice à l'ONU, Nikki Haley. Ces deux personnes qui contribuent dans le premier cercle à la constitution de la politique étrangère et de défense des États-Unis n'avaient plus droit de siéger de droit au Conseil national de sécurité quand le stratège en chef du président avait ce droit. Donc on vient d'assister à un rééquilibrage et à une normalisation du processus de décision en politique étrangère et de défense des États-Unis qui, somme toute, était attendu des observateurs. Mais à quel moment il allait avoir lieu, ça y est, c'est fait.
Oui, il faut... Les deux grands partis américains sont des coalitions, de toute façon. C'est un grand pays, c'est un système fédéral. Ça, c'est pas une nouveauté. Mais ce qui est une nouveauté, c'est qu'on a un président qui n'arrive pas à imposer une discipline dans son équipe. Et en effet, il y a des cercles de pouvoir, des luttes de pouvoir même, des luttes de personnes qui rendent tout autour de lui assez chaotique. Quand l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU dit une chose sur la Syrie et l'avenir d'Assad, et le ministère des Affaires étrangères Tillerson dit un autre, on peut se demander dans quelle mesure il y a une coordination. On peut conclure, en effet, qu'il y a beaucoup d'incohérences, imprévisibilité, et à la limite, peut-être on va tenter de monter ça en stratégie, de dire qu'on n'en a jamais, moi, dans
le
temps, je n'en ai jamais.
C'est ce que le New York Times a fait ce week-end, oui. Puisque à la une, il y avait un article qui développait l'analyse selon laquelle Donald Trump avait une stratégie de la non-stratégie. C'était un propos un peu curieux parce que ça n'était pas dit ironiquement. Vous a convaincu, Steven?
Non, mais je crois que les journalistes tentent de trouver ou de mettre une cohérence là où il y a très peu de cohérence, parce qu'on veut une certaine cohérence, on veut être en mesure
d'anticiper intellectuellement.
Donc voilà, donc ce sont les journalistes qui font le travail intellectuel, stratégique, à la place de l'équipe de Donald Trump.
Oui, effectivement, ça semblait peu convaincant, en tout cas c'est cet article du New York Times. Néanmoins, Annick Sizel, pour revenir à ce que vient de dire Stephen Ekovich sur l'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley, elle était présentée comme une opposante à Donald Trump. Aujourd'hui, elle a brandi à l'ONU des photos d'enfants morts suite à l'attaque au gaz sarin imputée au régime de Bachar al-Assad. Le fait que ce soit elle qui porte la parole américaine devant les caméras du monde entier, est-ce que ça n'est pas le signe finalement d'une normalisation de Donald Trump, en tout cas de sa politique extérieure ?
C'est très surprenant ce qui est en train de se passer autour de la personnalité de Nikki Haley. Quand elle a été nommée, elle semblait vraiment être... Alors à l'époque, elle était la première femme du gouvernement. Elle était, elle est métisse, elle est d'origine, je crois, américano-indienne. Et elle semblait vraiment être nommée comme un symbole, comme une vitrine, rééquilibrant un tout petit peu ce gouvernement très, très homme, très blanc. Et véritablement pas un stratège politique. Et elle se révèle dans le job comme étant une tête pensante, et non seulement une tête pensante, mais une tête influente sur la Maison-Blanche et sur la politique générale qui est en train de se développer. Parce qu'au-delà d'une communication qui, hier encore, était effectivement assez peu cohérente, assez peu coordonnée, disons, entre Nikki Haley et Rex Tillerson, on voit un alignement qui est en train de se mettre en place entre H.R. McMaster, ancien général de l'armée américaine qui dirige le Conseil national de sécurité, le ministre de la Défense, James Mattis, ex-général également, Rex Tillerson au secrétariat d'État, et Nikki Haley à l'ONU, qui, eux, sont en train de construire peut-être une stratégie pour les États-Unis sans le président Trump, qui, on l'aura tous remarqué, quand il a fait son discours suite à l'attaque chimique en Syrie, lisait un téléprompteur, n'était plus en roue libre, n'était plus en improvisation, mais véritablement s'alignait sur la politique définie derrière lui par son gouvernement.
Donc ça, c'est une forme de normalisation extérieure. Pour ce qui est de la normalisation intérieure, la rétrogradation, si on considère que c'est à cela qu'on a assisté, de Steve Bannon, qui était donc vraiment un symbole de l'ultra-droite, au profit de Monsieur Gendre, de Donald Trump, Jared Kushner, qui lui campe sur des positions qui sont républicaines, qui sont très proches du Likoud en matière de politique extérieure. On peut évidemment être très défavorable à ces positions, mais en tout cas, elles sont très conventionnelles pour les républicains américains, Stephen Ekovitch.
Donald Trump est devant un dilemme, parce que quand même, il y a une équipe autour de lui qui lui a fait gagner l'élection présidentielle quand même. Donc il peut pas lâcher très facilement, allègrement, cette équipe-là. D'un autre côté, il est obligé d'être plutôt pragmatique et de faire avec l'establishment washingtonien. Donc il est tiraillé entre cette fidélité à une équipe gagnante, mais aussi la nécessité de s'adapter à des réalités washingtoniennes et aussi extérieures. Donc c'est intéressant, ça c'est intéressant de voir dans l'avenir proche comment il va trancher comment il va surmonter ce dilemme.
Eh bien, on va vous retrouver, Annick Cizel et Stephen Ekovitch, à 8h20 pour continuer à voir quelles sont les conséquences de cette politique de Donald Trump, cette fois-ci sur le volet extérieur, s'il n'y a toujours pas de fin du monde. On verra à 8h20 si le monde continue à exister sous sa forme actuelle et quelles peuvent être les conséquences à la fois des frappes en Syrie, de l'envoi d'un porte-avions vers la Corée du Nord. Décision donc prise par Donald Trump.